Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, tout à fait exceptionnel aujourd'hui puisque nos trois personnages sont des croqueuses de diamants. Une pierre si précieuse pour laquelle mon complice Stéphane Bern a aussi, il faut le dire, une certaine fascination. Personnellement, je n'ai pas encore eu la chance de voir sa collection privée de diamants, mais Clémentine m'a dit que c'était dingue.
Il y en a qui font la taille d'un œuf d'autruche, hein.
Ah oui, quand même. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Mathieu. Non,
à part vous,
dans la vie, je n'ai aucun diamant. Pas même un petit saphir, contrairement à nos héroïnes du jour. En effet, ce sont des véritables croqueuse de diamants. Elle avait l'un des plus gros,
l'un des plus beaux
qu'elle arborait fièrement lors de son couronnement. En 1610, la reine Marie de Médicis, le diamant a brillé son règne moins. Vous verrez ça. Puis, je vous raconte l'histoire de celle qui a collectionné tant les amants que les diamants. Pour elle, l'un n'allait pas sans l'autre. Une autre reine, mais d'Hollywood cette fois, j'ai nommé Elizabeth Taylor. Et vous, Mathieu, vous évoquerez la figure plus contemporaine, mais tout aussi brillante, de Rihanna.
Elle ne porte pas de diamants, elle les chante. Je vous brosserai un portrait de cette star mondiale qui a remplacé André Dassary dans Le Cœur des Jeunes, Stéphane.
Oh non.
Oh si, si, je vous le confirme, un peu.
Et elle a bien connu André Dassary. Et comme chaque jour elle est avec nous, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Fortier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, mais qui est André Dassary?
Ah, voilà, vous connaissez plus Rihanna qu'André Dassary.
J'en ai aucune idée. Rihanna, je vois qui
c'est. André Dassary, c'est
un joli pépé qui se tortille.
Une jolie pépé, comme vous dites. Cela dit, vous auriez pu connaître André Dassary si vous utilisez l'expression joli pépé. André Dassary, c'était qui, Stéphane? Il est temps de faire un point
là-dessus. C'est un chanteur.
Oui, mais c'était un chanteur qui était très connu de vous ou des autres gens aussi?
Non, de mes grands-parents.
Voilà, ça explique tout.
De vos grands-parents, d'accord.
Bon, alors voilà, en tout cas, des noms comme Agnès Sorel, la Montespan, Madame de Pompadour, Madame du Barry.
On connaît tous.
Ce sont des favorites royales.
Exactement, vous les connaissez. Mais est-ce que Zoé Duquet, là, ça vous dit quelque chose?
Non.
C'est pourtant le nom de la dernière favorite royale
de l'histoire de.
Exactement. Et on raconte qu'il
aimait aussi beaucoup le duc de Blacas.
C'est ce qu'on a dit.
Qu'importe
le flacon. Alors en tout cas, on racontait qu'à chaque fois qu'elle quittait le vieux monarque, son réticule était plein à craquer, non pas de diamants, mais de rouleaux de louis d'or.
Ce que je vous racontais tout à l'heure.
Eh oui.
Encore une belle histoire d'amour. C'est toujours au cœur de l'histoire, une belle histoire d'amour. Mon cher David Castello-Lopez vous dit bonjour déjà.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous.
Oui.
Chaque jour, l'histoire d'un objet.
Oui.
Aujourd'hui, vous devriez avoir un accessoire sur le nez.
Oui, mais je l'aurai tout à l'heure.
Ah.
Ce sont ces lunettes qui ont du mal à se démoder quand même, qui sont les lunettes Aviator, celles de Tom Cruise dans Top Gun.
Et on fera tout à l'heure un petit défi, c'est qu'on mettra les lunettes Aviator sur Stéphane Bern. Je suis sûr que ça lui va.
Tout
à mon avis, l'illusion avec Tom Cruise sera...
C'est incroyable.
Vous êtes plus grand que Tom Cruise, Stéphane, je vous l'annonce. Oui.
Ah oui, il est très petit.
Vous êtes plus grand.
Et puis, on va, avec Olivier Pouls, l'histoire de la gastronomie.
Évidemment.
Et on va parler du magret de canard. Alors, pas l'histoire du magret, j'ai pas le nom du gars qui s'est dit, tiens, on va mettre de la viande à cet endroit-là du canard, ce serait plus sympa. Mais tout simplement, vous savez, c'est une pièce de viande qui a longtemps été négligée. Et il y a un chef qui a eu l'idée de la valoriser, d'en faire un plat, à ne pas confondre avec filet de canard. On fera le petit distinguo.
Ni Maigret.
Ni Maigret, le commissaire, tout ça.
Oui, ni l'ancien du Front National. Et puis, nous jouerons, non pas pour des diamants, mais pour des prunes à Bern to be Alive. Ce quiz qui est à la culture générale de Stéphane Bern, ce que la loupe est au joaillier, le révélateur des imperfections de la pierre. Et croyez-moi, il y en a deux, trois. Inspection vers 5h-10, Stéphane. Hein,
très bien.
En attendant, découvrons notre première croqueuse de diamants, la très bling-bling Marie de Médicis.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Connaissez-vous, Mathieu, le beau Sancy?
Je n'ai pas cet honneur.
Et savez-vous quel rôle il a joué dans la vie de Marie de Médicis? Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, il ne s'agit pas là d'un bel et fougueux favori de la reine, de 20 ans son cadet, mais d'un incroyable diamant, de près de 35 carats, taillé en poire, qui révèle un très grand nombre de facettes sur chacun de ses deux côtés, et témoigne d'une avancée dans les techniques de taille de l'époque. Un diamant qui a tous les arguments pour susciter le désir d'une reine de France. Il faut dire que Marie de Médicis a un amour fou des belles choses. La jeune princesse est née le 26 avril 1575 à Florence. Marie a grandi dans les plus beaux palais de la Renaissance. C'est là, dans les galeries du palais Pitti et les allées du jardin de Boboli, que son œil s'est formé à distinguer le luxe le plus raffiné. Il faut dire que les Médicis sont de grands collectionneurs. Ils accumulent d'exceptionnels objets d'art, des vases en argent et en or, des sculptures, des bijoux et des pierres précieuses. Marie reçoit en outre une éducation des plus soignées, y compris dans le domaine artistique. Elle apprend la musique, elle joue du luth, s'essaye à la gravure, s'intéresse à la peinture. Devenue jeune femme, Marie épouse Henri IV. Bon, c'est pas vraiment un mariage d'amour. Le roi de France cherche une nouvelle femme après sa séparation d'avec Marguerite de Valois, la célèbre reine Margot. En réalité, c'est surtout la dot de la princesse italienne qui le séduit. Elle était belle vue de dot. Marie est extrêmement riche. Oui, il l'appelait la grosse banquière. Ce qui tombe plutôt à point nommé, car la couronne de France, malgré les efforts du surintendant des finances, Sully, est à sec. Le projet est aussi encouragé par le pape, parce que Marie est une descendante de la maison des Habsbourg qui règne sur l'Espagne. Pour Rome, la France, tout juste sortie des guerres de religion, a bien besoin de se rapprocher de sa voisine très catholique. Le mariage est donc célébré le 5 octobre 1600. Marie de Médicis porte une merveilleuse robe blanche enrichie de fils d'or et de pierres. Henri, lui, n'a pas cru bon de faire le déplacement. Il est représenté par quelqu'un d'autre. Les deux époux ne se rencontreront que 2 mois plus tard.
Ça, c'est incroyable.
À Lyon. Non, à l'époque, on avait un ambassadeur qui mettait une cuisse dans le lit et le mariage était ainsi considéré comme consommé.
Il mettait une cuisse
oui,
dans le lit.
Mais parce que, Mathieu, on ne voyageait pas aussi facilement. Il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion. Donc, on ne faisait pas le déplacement. Ensuite, la fiancée est arrivée à Lyon.
C'était courant ?
Oui, c'était courant. C'était des mariages par procuration.
D'accord.
Dès ce jour des noces et tout au long de leur union, Marie de Médicis se sent délaissée, méprisée par un mari qui n'hésite pas à s'afficher avec ses maîtresses et comble de l'humiliation à faire élever les enfants issus de ses relations extra-conjugales aux côtés de ses descendants légitimes. Est-ce en guise de réparation que la reine de France insiste auprès de son royal mari pour qu'il lui offre l'un des 2 splendides diamants de Sancy qui doivent leur nom à leur propriétaire, Nicolas de Harlay de Sancy, diplomate au service de la couronne? L'arrivée en France de Marie de Médicis est en fait une succession de désillusions. Henri IV ne prend pas soin de lui, le Louvre est un palais lugubre et froid et les gens y sont facilement grossiers, verbalement et dans leur manière. Pour ne rien arranger, la reine souffre d'une image assez calamiteuse à la cour. En France, il est mal vu de faire commerce de l'argent. Or, les Médicis ont construit leur fortune de cette manière. Et comme je vous l'ai dit, on surnomme Marie la grosse banquière. Partout, elle traîne avec elle ce complexe. Et aux yeux des nobles français, cette image de femme un peu lourde et cupide. La reine aime le luxe, à n'en pas douter. Mais l'abondance de bijoux dont elle fait étalage est aussi pour elle un moyen de protection. Marie est menacée par la favorite du roi Henriette d'Entragues. Alors, pour affirmer et renforcer son statut, elle accumule les pierres, les bijoux et les diamants. Ses achats sont presque compulsifs. Elle possède plus de 10 000 joyaux qu'elle porte régulièrement. Lors des cérémonies de cour notamment, ses cheveux, ses oreilles, son cou, ses poignets, même ses vêtements sont parés de ses plus beaux trésors. Pour le baptême de son fils Louis XIII, en 1606, Marie de Médicis se glisse dans une robe brodée de 32 000 perles, sous le poids desquelles elle manque de s'effondrer. Comme une arme politique, les bijoux lui servent à asseoir son rang et son autorité. Je vous recommande de voir les portraits par Pourbus de la reine Marie de Médicis, c'est impressionnant.
Elle croule sous les bijoux.
Elle croule sous les bijoux, c'est comme un bouclier. Malgré ses fréquentes requêtes, Marie de Médicis n'obtient pas le grand Sancy, le plus gros des diamants de Monsieur Harlay, vendu au roi d'Angleterre en 1604. Mais Henri IV finit par lui offrir son petit frère, le beau Sancy. Le diamant aurait été acquis par son propriétaire à Constantinople vers la fin du siècle précédent. C'est l'un des plus gros diamants de l'époque, probablement originaire d'Inde, seul pays alors à exploiter des mines de diamants. Ce qui est sûr, c'est que Marie de Médicis l'arbore fièrement le 13 mai 1610 pour son couronnement en la cathédrale de Saint-Denis. Elle est couverte de bijoux comme en son habitude, mais le clou du spectacle se trouve au centre de sa couronne. Ce jour-là, Henri confie la trouver très belle. Pour Marie, cette journée est l'une des plus importantes de sa vie sur le plan personnel, comme dans sa carrière de souveraine. Bien sûr, elle est reine depuis 10 ans déjà, mais pour la première fois, elle est officiellement associée au pouvoir. Le roi prévoit de partir en guerre et le sacre fait office d'intronisation. C'est Marie qui va gouverner et assurer la régence en son absence. Le beau Sancy y est associé. Hélas, ce moment de félicité ne va pas durer bien longtemps. Un événement va bouleverser la vie de Marie de Médicis et le destin de son diamant. Je suis sûr, Mathieu, que vous connaissez cette date historique du 14 mai 1610. À peine 24 heures après le sacre, Henri IV est assassiné.
Quick.
Ravaillac, ça vous dit quelque chose? Louis XIII n'a que 8 ans. Et si sa mère exerce bien la régence en son nom, leurs relations ne vont pas tarder à se raidir.
M'étonne. Et vous racontez pas l'écartèlement de Ravaillac?
Non, on l'a déjà fait ici.
Oui, mais c'était toujours agréable.
C'est toujours un moment de plaisir, je sais, pour nos auditeurs aussi. La reine s'est entourée d'un couple de favoris italiens, Concino Concini et Leonora Dori, qui prend de plus en plus d'importance. Louis XIII, devenu adolescent, ne tolère plus qu'on gouverne en son nom, en le laissant à l'arrière-plan. En 1617, il fait exécuter Concini et enferme sa mère au château de Blois pour la tenir à distance de Paris. Mais Marie de Médicis ne supporte pas d'être éloignée de la vie politique. Dans la nuit du 21 février 1619, la reine-mère organise une évasion spectaculaire par les fenêtres du château. Alors tout le monde a toujours douté, parce que quand on voit les fenêtres du château de Blois et la corpulence de la reine, on se demande...
qu'elle peut pas passer.
C'est pas très plausible. Enfin, elle s'est évadée quand même.
Pas de grossophobie, Stéphane.
Non, au contraire. Je trouve qu'elle est appétissante. Sa progression est gênée par tous les bijoux qu'elle a cousus dans les plis de sa robe. Dans sa fuite, une des cassettes contenant ses trésors est abandonnée dans la nature. On reviendra chercher le coffre le lendemain pour pas laisser perdre des bijoux. Malgré un retour en grâce de Marie de Médicis, les relations entre mère et fils sont tendues. Si tendue que quelques années plus tard, en 1630, elle est contrainte à l'exil. Elle quitte cette fois la France, gagne la Belgique, puis les Pays-Bas espagnols. Naviguant dans les cours étrangères, Marie continue d'intriguer, de faire rédiger des pamphlets contre Richelieu, qu'elle soupçonne de manipuler le roi son fils. Elle tente d'armer un autre de ses fils, Gaston, et ses gendres, pour renverser Louis XIII. Pour financer ses manigances, et parce qu'elle est criblée de dettes, l'ancienne reine de France met en gage ses bijoux et ses pierres. Parmi elles, sans doute le Beau-Sancy. Quand elle quitte les Pays-Bas, il n'est plus en sa possession. Et c'est sans son cher trésor que Marie de Médicis meurt de la gangrène quelques mois plus tard, en juillet 1642, dans un petit hôtel de Cologne. Elle, qui avait connu et tant aimé le luxe, disparaît dans un terrible dénuement. Le Beau-Sancy, lui, est éternel. Vendu à la mort de la reine au prince d'Orange-Nassau, il passe ensuite entre les mains de la famille royale d'Angleterre, puis de Prusse. En 1702, Frédéric Ier, roi de Prusse, en fait l'ornement principal de sa couronne. C'est par ses héritiers qu'il a été mis en vente en 2012 à Genève et cédé pour la coquette somme de 7,5 millions d'euros.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Marie de Médicis et de son diamant, nous sommes avec Nadine Gana-Lévy qui consacre justement un livre à ses diamants. Bonjour Nadine.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de publier L'Essency, histoire fabuleuse des deux diamants aux éditions de L'Écluse. Le diamant rend fou ou puissant et souvent les deux. Peut-on lire au dos de votre livre, la destinée de Marie de Médicis le prouve, non?
Bien sûr, disons que c'est sa folie, surtout d'aimer perdument les diamants et pierres précieuses. C'est sa première folie. Par contre, puissante, oui, elle était la reine et brillait de tous ses feux. Il faut dire aussi que les pierres étaient des capitaux transportables qui étaient utiles parce qu'il y avait des périodes troubles, la Saint-Barthélemy, etc. Et elles joueront un rôle capital essentiellement dans son exil.
Orpheline dès l'âge de 12 ans, on l'a dit, Marie de Médicis devient héritière d'une fortune colossale. Est-ce que c'est cette fortune colossale qui lui est finalement montée à la tête?
Je ne sais pas si elle a pu jouer très longtemps de ce privilège. Déjà, on lui avait octroyé une nourrice qu'on a appelée la Galigaille et cette nourrice est devenue une amie. Et elle s'est bien chargée aussi de l'aider à gérer sa fortune. Est-ce qu'elle a joui longtemps de ce privilège? Elle a eu beaucoup de prétendants, tout de suite, très jeune. Et puis ensuite, les finances de la France qui étaient à l'agonie, eh bien, Henri IV et ses conseillers vont essayer de d'agir auprès d'elle pour l'épouser. Est-ce qu'il va arriver? Il va épouser Marie, mais c'est surtout sa dot qui va épouser Henri IV.
Oui, on a bien compris que ce n'était pas un mariage d'amour. Henri IV lui a offert le Beau-Sancy. Elle voulait avoir le grand Sancy. Alors, racontez-nous, il y a deux Sancy, oui. N'est-ce pas?
Dites-nous, parce que Stéphane aimerait bien investir éventuellement dans le diamant.
Non, mais celui qu'on peut admirer quand ça sera ouvert, au Louvre, dans la galerie d'Apollon. C'est le grand Sancy.
Dans la galerie d'Apollon, on admire le grand Sancy qui fait donc plus de 55 carats.
Mais qui, lui, était dans la cour d'Angleterre.
Oui, il a été vendu à Jacques Ier d'Angleterre, 60 000 écus. pour Marie de Médicis, c'était encore plus prestigieux, disons. Mmh. Elle voulait le grand Sancy, parce que d'abord, il était beaucoup plus gros, elle le voulait. Mais Henri IV lui a refusé. Pourquoi ? Parce qu'il était beaucoup trop cher, même pour un roi. Donc, elle l'a supplié, on ne dit pas si elle s'est jetée à ses pieds, mais à force de jérémiade, elle a obtenu gain de cause. Et son royal époux lui a acheté le beau Sancy, pour la coquette somme de 25 000 écus quand même.
Ça alors, représentait
si
quoi,
j'ai bien converti, ça devrait faire environ 6 millions d'euros aujourd'hui.
Ah oui, une quand même. Oui. Et alors, vous qui êtes spécialiste des deux Sancy, lequel était le plus beau?
Bah, c'était de très très beaux diamants tous les deux. Hein. On les appelait les deux frères.
Oui.
La différence, c'est que le beau Sancy pesait 34,98 carats, alors que le grand Sancy pesait 55,95 carats, celui qui est au Louvre actuellement.
C'était vraiment la femme aux 1000 diamants, hein, Marie de Médicis. Que dis-je, aux milliers de diamants. Combien en avait-elle au total? Est-ce qu'on le sait? Et est-ce qu'on sait ce que ça représente en valeur?
Bah oui, on le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un inventaire qui a été effectué en 1610 après l'assassinat d'Henri IV. Et cet inventaire fait état de 11 538 diamants. Sans parler des rubis et des perles. Un seul de ces colliers avait été estimé 550 000 écus d'or.
Mais au fond, et c'est ce que vous semblez dire, et ce que j'essayais de raconter, le bijou chez Marie de Médicis, c'est le diamant, n'est pas qu'un accessoire, c'est un instrument de pouvoir. Elle a donc utilisé politiquement ces diamants.
Ah oui, tout à fait. Elle aimait le pouvoir. D'ailleurs, elle a été régente. Elle aurait aimé rester à la tête de la France plus longtemps. Elle a mené plusieurs batailles. A-t-elle utilisé ses diamants pour arriver à ses fins? C'est possible. Par contre, après son évasion de Blois, elle s'est réfugiée dans le château d'Angoulême où elle va provoquer un soulèvement contre son fils. Plus tard, elle provoquera un deuxième soulèvement qui s'appellera Deuxième guerre de la mère et du fils. Après une autre réconciliation, mais complotant toujours, son fils l'incitera à partir au château de Compiègne. De là, elle s'enfuira pour Bruxelles, puis dans les Pays-Bas espagnols, où elle va tenter de former ce qu'on va appeler la Ligue des Gendres contre la France. Ses bijoux vont être mis en gage et vont lui permettre de monter tous ses complots.
Et à l'époque, donc, on met en gage des diamants pour lever des troupes, ça aussi, ça se fait?
Bah, Nicolas de Harlay l'a fait pour Henri III et Henri IV, j'ai des lettres qui le prouvent.
Ouais.
Il a levé des troupes en Suisse pour les rois en mettant ses diamants en gage, dont c'est bien noté sur les lettres, les Sancy. Mmh. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est affirmé.
En tout cas, c'est un instrument de pouvoir, les diamants, qui peut se retourner contre elle, parce que lorsqu'elle a fui du château de Blois, elle a été entravée par les bijoux qu'elle avait cousus dans les plis de sa robe. Mmh. Je le disais, qu'elle était déjà corpulente, mais en plus, couverte de bijoux pour descendre par les fenêtres du château, ça devait pas être très commode.
Ah bah tout à fait. D'ailleurs, il fallait qu'elle s'enfuit par une fenêtre, imaginez. Alors déjà, elle avait beaucoup, beaucoup grossi. Et ensuite, elle a été prise de vertige. Il faut dire qu'avec tout ce poids sur elle, ça devait être assez inconfortable. Ils ont dû donc l'enrouler dans un manteau, l'attacher à une corde pour la descendre. Et ce qu'il y a, c'est que Louis XIII, suite à cette évasion, va se réconcilier avec sa mère. Et ça, c'était formidable, parce qu'il a trouvé qu'elle avait été très héroïque de se sauver de cette manière. Voilà l'histoire.
Ironie du sort, Stéphane l'a dit, et moi ça m'a bouleversé, elle est morte dans le plus grand dénuement, loin de son beau Sancy. C'est un bijou qui a connu un sacré périple. C'est intéressant, c'est votre passion de retracer l'itinéraire d'un bijou. Vous établissez une sorte de géopolitique du bijou.
Tout à fait, parce que ces bijoux ont joué un rôle politique très important. Bon, pour le beau Sancy, il a eu un destin différent puisqu'il appartenait à Marie de Médicis, alors que le grand Sancy appartenait à la couronne de France. Donc c'était encore un autre destin. Mais quand même, au décès de Marie de Médicis, le beau Sancy va être vendu au prince Frédéric-Henri d'Orange-Nassau pour 80 000 florins. Il va l'offrir à sa belle-fille, Marie Stuart, qui va le mettre en gage pour aider son frère Charles II d'Angleterre. Elle va le récupérer l'année suivante lors du rétablissement de la monarchie. À sa mort, son fils Guillaume l'offre à une autre Marie Stuart, Marie Stuart II. À la mort de Guillaume, le diamant passe à ses cousins de la famille des Hohenzollern. Il va être serti dans la couronne du sacre du roi de Prusse, Frédéric Ier, qui était descendant des Hohenzollern. Il va être transmis alors de génération en génération. Voilà. Mais le 29 février 2012, Le Figaro annonce la vente du plus gros des diamants de Marie de Médicis. Estimé entre 1,5 million et 3 millions d'euros, il sera vendu, essentiellement du fait de son exceptionnel curriculum vitae, 7 millions d'euros. Voilà, il a connu ce destin, ce beau sens-ci, et maintenant il est certainement dans un coffre-fort quelque part, ou peut-être monté un collier, on ne sait pas. Voilà, j'ai posé la question, on ne veut surtout pas nous le dire, c'est un peu secret. Voilà.
En tout cas, voilà, on connaît toute l'histoire grâce à vous, l'histoire des deux Sancy, des deux frères, le grand et le beau Sancy. Les Sancy, histoire fabuleuse de deux diamants aux éditions de l'Écluse. Merci Nadine Ganalivi.
Merci beaucoup.
Merci à vous
merci.
Deux. Au
Alors,
plaisir.
À bientôt. Au revoir.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui finissent mal en général. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous parlez d'amour avec Zoé Duquela, la dernière favorite royale, la bonne amie, comme on disait, du roi Louis XVIII. Le roi Podagre.
Oui, d'amour, d'amour. Dites donc, lui, il était en fauteuil roulant. Enfin bon.
Non mais en fait,
il était très fatigué, très gros, très vieux et bon, enfin bon,
mais il est même... amoureux néanmoins.
Et très amoureux, voilà. Vous avez raison, c'était une belle histoire d'amour, mais pas que. Et d'ailleurs, il y a deux histoires parce qu'en fait, toute l'histoire démarre du père de Zoé. Zoé Duquela, à l'origine, s'appelle Zoé Talon. Elle est la fille d'un certain Omer Talon, qui a été député de la noblesse au début de la Révolution. Et Omer Talon détenait un document absolument explosif qui aurait pu ruiner complètement la réputation de Louis XVIII. Parce que quand il n'était encore que comte de Provence et au début de la Révolution, le futur Louis XVIII avait chargé un factotum, un certain Favras, de préparer l'enlèvement de Louis XVI, de le discréditer, de réunir des fonds pour préparer son accession à lui sur le trône de France. Malheureusement, le Favras en question, il est dénoncé, arrêté, jugé, pendu. Et avant de mourir, il fait une confession écrite qu'il confie à Omer Talon. C'était de la nitroglycérine, ce document. Et quand Omer Talon meurt en 1811, il laisse ce document à sa fille Zoé. Napoléon aurait payé très cher pour avoir ce papier, mais Zoé, non, au nom des principes monarchiques, a refusé de le lui donner. Mais pourquoi Napoléon l'aurait voulu? Parce que ça aurait prouvé que le Louis XVIII...
Avait comploté contre son frère Louis XVI.
C'est dégueulasse, si vous voulez. Il avait tout fait pour prendre la place de son frère et maintenant, il faisait de sa mort son fonds de commerce en disant, mon malheureux frère, guillotiné, tout ça. Tout ça n'était pas joli. Alors Zoé
Talon... Qu'est devenu ce document?
Je m'en vais, vous le narrez, cher monsieur, si vous patientez.
Oui, mais il y a tellement de circolocutions que moi...
J'essaie de planter le décor, écoutez, je m'inspire de mon maître en la matière. Voilà, Zoé Talon, donc, très jolie femme, spirituelle, élevée chez Madame Campan, comme toutes les jeunes femmes bien de l'époque. Elle se marie à 17 ans, 1802, avec le comte de Quella. Elle divorce, elle a plein d'amants, bon classique. Et vient la Restauration. Donc Louis XVIII monte sur le trône. Zoé Duquela, à ce moment-là, elle mène une existence un peu rasoir, monotone, attachée à la maison du prince de Condé à Chantilly, bon loto, travaux d'aiguille, couchée à 9h, on dirait le confinement qu'on vit depuis 2 ans, en gros, alors qu'elle a 30
travaux
ans.
D'aiguille.
Hein, travaux d'aiguille. Elle a 30 ans, 30 ans, deux enfants, Valentine et Hugolin, dont son mari prétend lui disputer la garde. C'est bien à peine de détenir un document aussi précieux, un tel secret d'État, pour mener une existence aussi rasoir auprès d'un vieux prince. Alors, pour obtenir la protection du roi, elle demande une audience. Louis XVIII sait très bien qu'elle a ce document qui peut le compromettre. Hein. À l'époque, Louis XVIII est donc un vieux monsieur, ventripotent, goutteux, condamné à l'immobilité perpétuelle. Ces aventures galantes n'ont jamais défrayé vraiment la chronique, hein, et comme l'historien Gosselin Lenôtre, déjà mort des pieds jusqu'aux genoux, il peut à peine se mouvoir. Il n'y avait pas d'apparence que la plus experte et la plus entreprenante des femmes fût capable de galvaniser ce corps adipeux et ankylosé. Poum, il habillait pour l'hiver, Louis XVIII. En tout cas, la comtesse Duquela, qui a 30 ans de moins que lui, elle va quand même tenter le coup. À force de patience, elle va parvenir à se hisser, sinon jusqu'au folie du roi, du moins jusqu'à son fauteuil roulant, semble-t-il. Comment s'y prit-elle ? Eh bien, elle fut toujours très très maligne. Le jour où elle est reçue pour évoquer ses démêlés avec son mari Almidnaud, elle joue les oies blanches, hyper intimidée. Bon, elle lui remet naturellement, pense-t-on, le fameux document compromettant, l'air de dire « Oh, voyez, majesté, j'ai gardé ça pieusement pour vous ». Alors, il a dû immédiatement le mettre au feu, ce document, en réponse à votre question. Il ne pouvait pas laisser traîner un document pareil. Et il la quitte en lui promettant sa protection. Et le soir même, il dit à Decazes, je veux absolument revoir cette femme. Alors, elle commence à venir tous les lundis au cercle de la cour. Et puis, bientôt, elle vient trois fois par semaine. Et à heure fixe, elle entre dans le cabinet du roi. Là, l'accès est interdit. Alors, que se passe-t-il ? En tout cas, toute la cour se passionne pour cette intrigue amoureuse. Quant au roi, écrit toujours Gosselin le Nôtre, il avait 16 ans. Ce pauvre gros homme qui n'avait jamais aimé se découvrait le cœur de chérubin. En public, comme il est quand même assez conscient du ridicule, il l'appelle ma fille. Et les jours où il ne la voit pas, il est absolument désespéré. Il lui écrit plusieurs fois par jour. Il attend ses réponses fiévreusement. Il lui écrit, y compris en latin, pour ne pas être compris de ceux qui pourraient l'intercepter. Et en tout cas, elle a été très maligne parce qu'elle a refusé tous les cadeaux ostentatoires. Les diamants, les tableaux, etc. Elle assurait ne vouloir que la confiance et l'amitié du roi. Pourtant, elle arrivait toujours...
Elle a eu un château et...
Elle a eu un château après. Mais au début, elle arrivait toujours aux Tuileries avec un petit sac de velours vide. Et quand elle repartait, il était plein à craquer de rouleaux de louis d'or. Et vous avez raison, Stéphane, il lui a quand même fait construire un très beau château. Et c'est quand même grâce à elle qu'il a accepté de recevoir un prêtre sur son lit de mort, Louis XVIII, parce qu'il voulait entendre parler de rien. Parce que quand on vous envoie un prêtre pour... en vous disant, écoutez, Cyril, il est peut-être temps de recevoir l'extrême onction, vous vous dites donc, là, ça sent le sapin, mais les médecins doivent considérer que je suis guère en forme. Donc, Louis XVIII était très rétif à l'idée de recevoir un prêtre, et c'est Zoé Duquesla qui, en l'entourant, l'a convaincu de recevoir un prêtre. Et alors, les mauvaises langues prétendent que ce jour-là, elle est sortie de sa chambre de Louis XVIII avec 800 000 francs qu'elle employa pour s'acheter un hôtel particulier dans Paris. Alors cette fois-là, son réticule n'y aurait pas suffi à contenir tout ça. Zoé Duquesla, dernière favorite royale.
Merci beaucoup Clémentine.
J'aime les histoires d'amour comme celle-ci. Merci Clémentine, vous ne bougez pas, le quiz se prépare et je vous le demande comme une faveur, si vous pouviez laisser gagner Stéphane, ça ferait un bien considérable à son ego.
Oh, ça peut se faire, hein. Moyennant un petit bifton.
5 euros, ça vous ira ? Merci d'avance.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
C'est une séquence qui marque les esprits, voire pour ceux qui participent, qui obsède. Ainsi, il n'est pas rare que la nuit, Clémentine se réveille en sursaut, en sueur, en se demandant...
Est-ce que Burt Lancaster aurait pu manger un Big Mac ?
Jouons à Burn to be Alive. Ce jeu... Aux questions éminemment historiques, Stéphane, première question pour vous. Êtes-vous prêt ?
Je suis prêt.
Alors, je vous demande de bien vous concentrer.
Je suis très concentré.
Vladimir Vladimirovitch Poutine est président de la Fédération de Russie depuis 2012, comme le temps passe. Son grand-père, Spiridon Poutine, a travaillé en tant que cuisinier dans une datcha dans la région de Moscou, d'abord pour Staline, puis ensuite pour Lénine. Vrai ou faux ?
Ça aurait dû être le contraire, non, plutôt. D'abord pour Lénine, ensuite pour Staline.
Vrai ou faux ?
Je crois pas, lui, il a travaillé pour le KGB, lui.
Oui, on parle de son grand-père, Spiridon Poutine.
Spiridon.
Je crois pas qu'ils étaient de la région de Moscou,
les Poutines n'étaient pas de la région de Moscou.
Et il aurait pu partir...
Non, je dis non, écoutez,
oui,
non.
Oui, faux.
Faux.
Vous avez... J'ai perdu. Gagné.
Ah.
C'est une bonne réponse, totalement par hasard, puisque vous n'avez pas écouté.
Non,
même
non, mais c'est vrai, quand on voit des docs sur Poutine, il n'est pas de Moscou.
Du tout, il n'est pas de là.
D'où est-il ?
Et ses grands-parents, non.
Alors, Spiridon
Babushka.
Poutine n'a pas été cuisinier d'abord pour Staline, puis ensuite pour Lénine, ce qui aurait été étrange, mais d'abord pour Lénine, et ensuite pour Staline, ce qui est plus logique. Cette info est issue du documentaire de Andrei Kondrachov, qui s'appelle « Poutine, c'est Poutine ».
Kondrachov. Et ça devrait me valoir un demi-point, là, parce que...
Non, mais vous l'avez même pas aiguillé, parce qu'en fait, c'était le piège de la question, mais il a même pas vu le piège, il a juste répondu autre chose. Mais par hasard, il a gagné. Bravo Stéphane.
Merci.
La chance vous sourit pour l'instant. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Évoquons à présent, et j'espère que ça fera plaisir à Stéphane, l'histoire légendaire du rocher et les grandes heures mythiques de la dynastie Grimaldi.
Comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté.
Quel empire. Stéphanie,
c'est un incendie qu'on ne peut plus arrêter.
Vous avez quel âge quand cette chanson est sortie ? J'ai l'impression que ça fait remonter des souvenirs. Hein. Stéphane ? Bah, personnellement, j'étais pas né, mais vous
C'est 85, 86, oui.
Ah oui, voilà, 85, ouais. 86. C'était vraiment
moi, je connaissais déjà Stéphanie.
Vous faisiez des booms. Ah, vous la connaissez personnellement, bien sûr. Oui,
déjà. Bah oui, c'est une amie, oui.
Ah, c'est une amie.
Oui.
Ah oui, mais
bah, vous
mais,
savez
mais
pas Elizabeth ça, Taylor, vous.
Non, mais là, vraiment, la princesse Stéphanie, on s'adore. Oui.
Enfin, je on crois. S'adore. Alors écoutez, vous devez. Alors donc, Clémentine.
Bon,
vous
alors moi, j'y connais
contrôle
rien.
De Stéphanie. Oui. Stéphanie est aujourd'hui 14e dans l'ordre de succession au trône de Monaco. C'est pas Jojo. Mais elle peut se vanter d'avoir chanté avec Michael Jackson. Vrai ou faux?
Oh, ça me dit quelque chose. Est-ce qu'elle a pu faire? De toute façon, moi, je pense que quand on est princesse Monaco, fille de Grace Kelly, on peut avoir eu l'occasion à une fête caritative quelconque, recevant Michael Jackson, qui allait au Festival de Cannes, de chanter comme un ouragan.
J'aime bien comme on a. C'est même pas la réponse à la question. C'est on a les
je
détails.
Dis oui.
Festival de Cannes, truc caritatif.
Bah, parce que vous manquez d'imagination. Je dis oui.
Vous avez. Gagné.
C'est une bonne réponse. Ce n'est pas au Festival de Cannes pour une association caritative. On entend la voix de Stéphane. Est-ce que vous le savez, Stéphane?
Oui.
On entend sa voix au début du titre In the Closet de Michael Jackson. Alors ça, c'est dingue. Ah, moi, personnellement, je suis fan de Michael Jackson. Je ne connaissais pas cette anecdote. Ça, c'est Stéphanie de Monaco que vous entendez au début de ce tube. Michael avait crédité sur l'album Mystery Girl, mais ensuite il a lâché le morceau, c'était bien Stéphanie de Monaco.
Mais comment se fait-ce alors cette histoire? Vous avez des
plus
détails
d'informations sur
Stéphanie?
Comment
elle
s'est retrouvée sur l'album?
Sa carrière de chanteuse, c'est
oui,
vrai.
Oui, enfin, de là, pour Michael Jackson, qui était la pop star numéro un au monde, à penser à Stéphanie de Monaco.
Je ne sais plus le nom de son agent, de la personne qui l'a fait chanter, qui était aussi, qui travaillait avec Michael Jackson.
Ah oui, donc voilà, ça a fait le pont entre les deux.
C'est souvent où les managers ou les.
En revanche, Michael Jackson ne chante pas sur Comme un ouragan.
Non.
Ça, voilà, il n'a pas fait les chœurs derrière. Au Qatar, Stéphane, on a retrouvé des traces d'habitation humaine qui remontent à plus de 50 000 ans. Ça, c'est vrai. Mais le Qatar est le seul pays à commencer par un Q. Vrai ou faux?
Il y a le Québec, mais le Québec n'est pas un État indépendant.
Je crois qu'effectivement, quand on joue aux ambassadeurs, oui.
C'est quoi aux ambassadeurs?
Vous savez, on prend une lettre et puis on doit alors.
Ça s'appelle le petit bac. Non, mais c'est pas les ambassadeurs.
Mais visiblement,
c'est dans le grand-duché du Luxembourg, ça doit s'appeler comme ça.
Les ambassadeurs.
Les ambassadeurs.
En France, c'est le petit bac.
C'est le petit bac.
Effectivement, les gens populaires, les Français disent ça. Après, au Luxembourg, je sais pas comment on dit, mais visiblement, on a une autre qualification.
Alors, attendez.
Le Qatar est le seul pays à commencer par un
Q.
Vrai ou faux? Je vous donne 5 secondes pour être.
Oui, c'est bon.
C'est bon, c'est vrai.
Vous avez gagné.
Et c'est vrai. Et Irak est le seul pays à finir par un Q. Voilà une info qui fera de vous le king absolu de la machine à café.
Du jeu des ambassadeurs.
Du jeu des ambassadeurs. La version chic du petit bac. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, cette question va vous départager. Quand les deux yeux fermés, en un chaud soir d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Les fleurs du mal, Charles Baudelaire. D'ailleurs, le premier titre du célèbre recueil de poèmes était « Les obélisques ». Vrai ou faux?
Alors là...
Ça alors... Les obélisques seraient le premier titre du célèbre recueil
non,
de Baudelaire.
Non, je ne me dis rien du tout, je vais répondre vraiment non.
Vous répondez
non.
Faux.
Vous avez gagné.
Beaucoup de bonnes réponses, mais un peu liées au hasard, puisque ce n'est pas le raisonnement. Effectivement, les fleurs du mal ne s'appelaient pas les fleurs du mal. Entre 1845 et 1846, Baudelaire appelle son recueil de poèmes « Les lesbiennes ».
Moi, je pense, j'allais dire les odalisques ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, c'est un peu un mélange du mot que vous me proposiez et de quelque chose d'un peu sexy. Les lesbiennes.
Les lesbiennes.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, je vais vous expliquer, Stéphane, mais hors antenne. Des femmes qui aiment les femmes, Stéphane. Tout simplement. D'accord. Vous voyez.
Et vous saviez que les fleurs du mal, c'était un moment appelé les lesbiennes.
Non. Et alors, en revanche, pourquoi obélisque? J'ai dit The Obélisque, ça a été le premier nom d'un groupe de rock très connu. The Cure.
Vous m'en direz tant.
Évidemment, ça ne vaut pas Stéphanie de Monaco.
Mais si, The Cure, c'est pas mal.
C'est un groupe qui a quand même marqué l'histoire.
Mais je ne savais pas cette histoire qu'il avait appelée. Ça s'appelait pas Les Fleurs du Mal au début.
Mais voilà, c'est un scoop européen.
Donc on est à égalité.
Nous sommes à égalité, ce qui nous emmène donc directement vers la question 5, la question de rapidité.
Préféré.
Il y a une explication historique au choix du pseudo de François Valéry. Vous aimez l'histoire ou non? Oui ou non, vous aimez l'histoire? François Valéry, c'est pas de l'histoire.
Non.
Mais qui nous écoute.
Comme Marie-France Garraud,
là. Oui, on l'embrasse possible. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de respect pour François.
Marie-France Garraud, elle pose nue.
Il y a. On rappelle que Marie-France Garraud n'a jamais posé nue pour Playboy. C'était la théorie qu'a longtemps soutenue Stéphane Bern. Trois propositions. Il y a une explication historique, donc, au choix du pseudo de François Valéry. Quelle est cette explication? 1. C'est en hommage à François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Paul Valéry et François Mauriac étaient les auteurs préférés de son père. Où le vrai nom de François Valéry était Valéry François, mais il trouvait que François Valéry, c'était plus classe.
On dirait 3.
On a eu la réponse 2. On a eu la réponse 3, ce qui nous fait... Une fois de plus, aucun personne ne remporte le quiz, puisque nous avons deux mauvaises réponses. C'est un hommage à François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Ouais. En 74, le chanteur se cherche un pseudo. Les finalistes de la présidentielle sont Giscard et Mitterrand. Son vrai nom est Jean-Louis Mougeot. Figurez-vous, voilà
incroyable.
L'histoire d'une
ça
star de la pop française.
Mais on a
ce soir,
quelque chose grâce
vous,
à vous.
Vous vous coucherez moins bête. En revanche, c'est encore un quiz de la loose puisque nous avons une égalité.
Oui, mais on a eu deux bonnes réponses
dans la nullité.
Oui, on ne minimisez pas nos performances. Hein,
vous êtes satisfaite de ce résultat.
Oui, on est très satisfait.
Très bien.
Voilà. Surtout,
belle mentalité, bel esprit.
On aurait aimé vous poser les questions à vous et on aurait vu les réponses. Voilà, bonne journée, Mathieu.
Un jour, vous ferez ça peut-être pour me piéger.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, grâce notamment à la décontraction naturelle de mon acolyte Stéphane Bern, un pro de la radio et de la télé qui pourtant ne connaît pas le stress. Son secret, il me le révélait l'autre jour en antenne. T'as toujours le track, toi, Stéphane?
Ah non.
Ou même pour des primes?
Non, je m'en fous trop, je crois.
C'est donc ça, le secret. Chaque après-midi, vous le savez, on réunit trois personnages de l'histoire qui avaient un point commun, Stéphane.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, des croqueuses de diamants. Mmh. Ça vous stresse, vous, de parler comme ça à la radio?
Ça ne me stresse plus. Mais moi, la télé, quand j'en fais un peu, quand il y a du public, moi, ça me stresse, là. Quand il y a des gens qui font applaudir.
Non, mais il faut oublier tout ça.
Oui, bah,
après
certains
tout, on est là pour partager avec le public. Et notamment, là, on partage des diamants cet après-midi.
Ah oui, on partage.
Oui, surtout ceux qu'on n'a pas.
Oui, c'est pratique. Pratique de les partager.
Après Marie de Médicis, je vous raconte le destin d'Elizabeth Taylor, à qui son mari, Richard Burton, avait offert un diamant poire de 69 carats.
69 carats, ça avait dû lui coûter cher. Oui. Au manège à bijoux, probablement. De mon côté, j'essaierai d'instiller un peu de modernité dans cette émission en vous racontant le destin de celle qui n'a pas croqué les diamants, mais qui les a chantés. Rihanna, une star mondiale, mais dont la notoriété n'atteint pas encore celle de nos chroniqueurs.
Non, surtout le plus célèbre, David Castello Lopez, qui nous raconte les origines des choses de notre vie quotidienne, des objets, des inventions.
Donc vous considérez qu'il est plus célèbre que moi?
Il a plus de followers sur Instagram. Sur les réseaux sociaux, il faut que
vous
tu mettes une pile.
Plus de nourriture sur les réseaux sociaux.
Plus de foot porn. Alors, début d'aujourd'hui.
Les lunettes Aviator.
Toujours à la mode, ça?
Mais en tout cas, c'est pas à la mode. C'est peut-être pas la dernière tendance,
non,
mais on n'a pas l'air d'un gros con quand on porte des Aviator encore.
D'accord. Et même Stéphane, s'il met des Aviator.
Je pense que ça marche très bien.
On vérifiera tout à l'heure, qu'on fera l'expérience.
Et puis quand même, il est le roi de la gastronomie. Et dans cette émission, il nous fait saliver tous les jours avec une recette. Et puis son histoire, souvent le magret de canard.
On va parler du magret de canard qui a été très à la mode, puis qui a plus été à la mode, puis qui est de nouveau un peu à la mode. Ouais. Mais surtout, depuis quand on mange le magret de canard? On dirait le canard, on le mange depuis toujours. Oui, mais vous allez voir, il s'est quand même passé un truc.
Il s'est passé un truc, le suspense est total. Le mot de la fin, c'est vous Stéphane qui l'aurez chaque jour, l'histoire d'une expression aujourd'hui.
C'est quoi votre marotte?
Moi, mes marottes sont multiples Stéphane et je ne peux pas toutes les citer à l'antenne.
Chacun ses passions, mais tout ça vient à avoir une marotte.
Eh bien oui, nous le saurons en fin d'émission, mais tout de suite, partons à la rencontre d'une femme qui, elle, sa marotte, c'était les rivières, mais les rivières de diamants. Stéphane Bern nous raconte, votre amie, vous la connaissez bien, vous avez même fait un voyage avec elle.
J'ai voyagé une fois avec elle.
Oui, visiblement, c'était gratiné.
Très gratiné.
Très gratiné, on parle d'Elizabeth Taylor sur Europe.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Vous allez voir qu'Elizabeth Taylor aimait autant les amants que les diamants. Elle est née en février 1932 à Londres de parents américains. Sa mère est comédienne, son père marchand d'art. Au printemps 1939, la famille regagne les États-Unis, fuyant la guerre qui s'annonce. Les Taylor s'installent à Los Angeles et très vite côtoient les étoiles. Liz est introduite par sa mère dans les studios hollywoodiens, tandis que son père attire les plus grandes personnalités dans sa nouvelle galerie. Les magnifiques yeux lilas, le petit nez droit et la belle chevelure noire de la jeune Elizabeth feront le reste. En 1943, Elizabeth Taylor fait ses débuts au cinéma dans la saga des Lassie. L'année suivante, elle joue aux côtés d'Orson Welles dans Jane Eyre et adapté du roman célèbre de Charlotte Brontë. Et l'enfant précoce incarne quelques années plus tard la jeune Amy dans Les Quatre Filles du Dr March. Tous ces rôles lui assurent une certaine notoriété, mais il faut attendre 1951 pour son premier grand film, Une Place au Soleil avec Montgomery Clift. Cette décennie 50 est celle de l'actrice qui enchaîne les succès, les grosses productions et les partenaires de renom. Ivanhoé avec Robert Taylor, Géant avec James Dean, La chatte sur un toit brûlant de Richard Brooks. En 1959, Liz est à l'affiche de Soudain l'été dernier, adaptée d'une pièce de Tennessee Williams aux côtés de Katharine Hepburn. Elizabeth Taylor n'a pas 30 ans et elle est déjà totalement incontournable dans l'industrie du cinéma américain. En 1961, elle est récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans La Vénus au vison.
I don't really know how to express my gratitude for this and for everything. I guess all I can do is say thank you. Thank you with all my heart.
On dirait vous au 7 d'or, Stéphane.
Ça a dit la même chose. Oui, mais vous l'avez eu le 7 d'or, non?
Oui, mais il y a si longtemps.
Or, que...
Cette impressionnante carrière n'empêche pas la star hollywoodienne de vivre à côté. Oula non, sa vie sentimentale est tout aussi chargée. À son palmarès, Elizabeth Taylor affiche pas moins de 8 mariages avec 7 hommes différents. Oui, il y en a eu un, le plus connu, le comédien Richard Burton, qu'elle a épousé 2 fois. Vous allez voir, l'histoire de ses amours est étroitement liée à celle de ses bijoux. J'ouvre une parenthèse, je vous recommande la biographie de les mémoires de Richard Burton. C'est quelque chose, hein. Ah oui, faut.
Mais ils ont fini en bon terme.
Âme sensible, s'abstenir. Il y a beaucoup de, ça coule beaucoup à flot, hein.
Ah oui.
Les colères, l'alcool, les bijoux, enfin tout ça. Pour sa première union, Lizzie n'a que 18 ans, mais déjà un goût sûr pour les garçons fortunés. Elle épouse en 1950 Conrad Hilton Jr.
Ah oui.
Vous savez, héritier de l'empire hôtelier du même nom.
Bien sûr.
Il faut dire qu'avant ça, elle avait déjà été fiancée 2 fois. D'abord avec un millionnaire, puis un joueur de foot américain, Glenn Davis. Avec Conrad, l'affaire ne dure que quelques mois. Leur goût commun pour le salami, les oignons et le chanteur lyrique Ezio Pinza n'auront pas suffi à garder la magie intacte plus de quelques mois. Mais pas de quoi dégoûter la belle qui, moins d'un an après son divorce, se remarie avec Michael Wilding, dont elle aura 2 enfants. En 1957, Elizabeth Taylor jette son dévolu sur Mike Todd, producteur de théâtre et de cinéma. La même année, à Cannes, elle porte le diadème de diamant dont il lui a fait cadeau. Peu de temps après, alors qu'elle se prélasse tranquillement dans le bassin d'un château du Cap Ferrat, son mari lui offre cette fois une parure Cartier, collier, boucle d'oreille en rubis et diamants. Comme Mike n'a pas pensé à prendre un miroir avec lui, c'est dans le reflet de l'eau de la piscine qu'elle découvre son nouveau joujou.
Quelle belle histoire!
La mort brutale de Todd dans un accident d'avion met fin à cette avalanche de cadeaux étincelants. Veuve, Liz Taylor semble inconsolable. Son amie Debbie Reynolds, la star de Singing in the Rain, envoie son mari Eddie Fisher, grand crooner et ami du couple, pour la consoler. Et quelques mois plus tard, devait arriver arriva. Elizabeth l'épouse. Le scandale est énorme. À 27 ans, ce 4e mariage, alors qu'elle est fraîchement veuve, choque. D'autant que Liz s'avère briseuse de couple.
Mais oui.
Le chanteur perd lui tous ses contrats. Il n'est pourtant pas au bout de ses surprises. L'année suivante, l'actrice incarne Cléopâtre dans l'incroyable superproduction du même nom. Sur le tournage en Italie, Liz succombe sous les yeux des paparazzi au charme de Richard Burton qui joue le rôle de Marc-Antoine. À nouveau, les tabloïds et la presse s'acharnent contre la mangeuse d'hommes. Le Vatican publie même une lettre ouverte pour condamner le vagabondage érotique des 2 collègues de travail. Richard, lui aussi, est marié à l'époque. Qu'importe. Le couple s'aime follement et bien évidemment se marie. Une première fois en 1964, l'actrice porte sur sa robe de mariée une broche Bulgarie en émeraude et diamant, mais ses plus grosses pierres, elle ne les possède pas encore. En 1968, Richard Burton achète aux enchères pour 307 000 dollars le Krupp Diamond, une superbe pierre de 33 carats nommée ainsi pour avoir appartenu à la femme de l'industriel allemand et criminel de guerre, on peut le rappeler, oui. Alfred Krupp. Ah oui. La pierre prend son nom, Elizabeth Taylor Diamond. Mais ce n'est rien comparé au prochain cadeau de Richard, le Taylor Burton, 69-42 carats, monté sur une bague et acquis pour un peu plus d'un million de dollars. Même pour moi, c'était trop gros, avouera Lizzie. Elle confie donc à la maison Cartier le soin d'en faire un collier qu'elle porte à la cérémonie des Oscars en 1970 pour rehausser sa robe couleur lavande au décolleté pigeonnant. Parallèlement, la carrière de Liz Taylor commence à ralentir. Elle tourne encore Qui a peur de Virginia Woolf, gros succès de Mike Nichols pour lequel elle remporte un deuxième Oscar, mais les années 70 sont un peu moins riches en films cultes. Le couple qu'elle forme avec Richard Burton s'étiole lui aussi. Ils se sont aimés, ils se sont mariés, ont divorcé 10 années plus tard, puis se sont remariés, incapables de vivre l'un sans l'autre. En octobre 1975, Richard Burton dira « Quand elle a dit qu'on devait se remarier cette semaine, j'ai pensé qu'elle plaisantait. Mais elle était sérieuse. Je lui ai dit que j'avais peur que notre mariage se solde par un divorce. » Mais dès le lendemain, il cède aux exigences de sa compagne et il se remarie au Botswana. Ses craintes étaient fondées. En 1978, le couple star se sépare pour de bon. Après leur divorce, Elizabeth Taylor vend alors le fameux Taylor Burton et utilise l'argent pour financer un hôpital au Botswana. Après sa mort, tous les bijoux de Liz Taylor sont vendus aux enchères par Christie's pour la coquette somme de 106 millions d'euros. Parmi eux, un autre trésor absolu, le collier Peregrina, une perle parfaite d'une taille exceptionnelle ayant fait partie des joyaux de la couronne d'Espagne au XVIe siècle. Après tout, rien d'étonnant qu'elle ait été un temps la possession de Queen Elizabeth, elle qui fut reine aussi, une reine de cinéma, la reine d'Hollywood.
Europe 1, historiquement vôtre.
Elle avait toutes ces bagouses là quand vous avez fait ce voyage avec elle en Thaïlande ?
Elle en avait quelques-uns.
Ah, vous n'avez pas essayé d'en subtiliser finement ?
Non, vous savez, je ne porte rien. cela dit, oui. J'aurais donné cher pour voir la Peregrina. Parce que la Peregrina, c'est sans doute, là on parle de diamants aujourd'hui, mais c'est la plus belle perle du monde, n'est-ce pas? Nous sommes avec la journaliste Gabrielle de Montmorin, on va en parler, mais c'est vrai, je vous vois acquiescer. Vous êtes journaliste spécialisée en joaillerie, notamment pour le journal Les Échos et Vogue.fr. Elizabeth Taylor disait n'avoir eu que 3 grands amours dans sa vie, Mike Todd, Richard Burton et les bijoux. C'était peut-être pas une coïncidence que ses 2 premiers amours aient été les plus dévoués aussi pour assouvir le troisième.
Je crois surtout que c'était des amours passionnés, merveilleux, extrêmes, excessifs, et qui effectivement ont été ponctués par des carats, parce que les 14 ans avec Burton, ça a été beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de disputes, qui à chaque fois se soldaient par des pierres incroyables. Et avec une escalade toujours de plus en plus gros, de plus en plus rare.
On est d'accord que c'est pas un cliché, c'est pas lui faire offense que de dire qu'Elizabeth Taylor aurait pas pu s'enticher d'un homme qui n'avait pas de moyens pour pouvoir acheter de telles pierres.
Ben, j'en suis pas si sûre que ça, parce qu'elle était très indépendante financièrement. Vous savez, c'était une des comédiennes de vie et elle s'est acheté elle-même des bijoux. Et j'ajouterais, pour sa défense, que son 4e mari, Eddie Fisher, avait laissé une ardoise chez Bulgari, lui avait acheté des très jolies, une petite parure en diamant blanc et jaune.
Ah, mais sans les payer.
Oui, il avait oublié de payer. Alors, ça, il était peut-être un peu vexé de ce qui se passait en ce moment sur le tournage de Cléopâtre. On peut comprendre.
Eh oui.
Elle a payé. Elle a payé.
Sur le côté bling-bling, ça, on ne peut pas quand même lui enlever. Elle a cette phrase, dans la vie, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les fourrures et les bijoux. On a l'impression que c'est des propos qu'une star pourrait plus tenir. Elle pourrait le penser, mais elle pourrait plus tenir ses propos aujourd'hui. On a l'impression que c'est vraiment autre époque.
Ah non, elle se ferait complètement lyncher sur les réseaux sociaux. Mais il faut se remettre dans l'époque. Oui. Elizabeth Taylor, elle avait négocié pour Cléopâtre un contrat ultra intelligent puisqu'il était limité dans la durée. Elle avait 1 million de dollars, ce qui était mais énorme, faramineux comme somme. Et comme il y a eu 2 ans de retard dans le tournage du film, elle a empoché 7 millions de dollars.
Ça, c'est bien joué.
Voyez?
On raconte aussi que le seul mot qu'elle connaissait en italien, c'était Bulgari. Bon, j'imagine que c'était pas le cas. Elle devait dire buongiorno ou autre chose. Mais ça veut quand même dire qu'elle aimait tout ce qui brille. Les bijoux, plus encore que les tenues d'ailleurs.
Oh oui, sans conteste. Et Bulgarie, alors en fait, Richard Burton avait eu cette phrase jolie qui disait « Le seul mot d'italien que l'italien connaît, c'est Elisabeth, c'est Bulgarie. » Il lui a dit « Je lui ai appris la bière, elle m'a fait connaître Bulgarie. » Parce que il y a un lien très spécial avec Bulgarie, c'est le joaillier de la Via Condotti, parce qu'ils sont connus à Rome, ces deux monstres sacrés. Ce coup de foot, c'est Rome, et Rome, c'est Bulgarie. Et quand il a voulu lui acheter son cadeau de fiançailles, il avait un budget de 100 000 dollars. Ce qui était déjà pas mal. Et Gianni Bulgari apporte une bague et alors Elizabeth Taylor la trouve toute rikiki. Et du coup, dit bon voilà. Et alors du coup, Gianni Bulgari repart au coffre et rapporte un somptueux collier. Elle le porte très souvent, d'émeraudes, de 16 émeraudes, 60 carats d'émeraudes, taillé en octogone, en gradin. Et elle dit celui-là. Et comme Richard Burton était dans Whatever You Want mood, il lui prend.
Ça a dépassé le budget.
Oh, largement. Et c'était son cadeau de mariage. Alors ouais. Bon.
C'est incroyable, hein, quand même. Il faut souligner qu'elle ne s'en faisait pas seulement offrir, et c'est, vous l'avez dit, elle s'offrait elle-même. Quand elle se faisait plaisir, elle, pour un film, pour une occasion, elle s'offrait un
Absolument,
bijou.
Absolument, vous avez raison de dire, ce qu'elle portait, ses propres, ses bijoux étaient somptueux, et du coup, elle les portait dans ses films, et elle a notamment, et puis dès qu'elle voulait quelque chose, elle voulait l'avoir. Et il y avait une broche de la duchesse de Windsor qui était en vente en 87, c'est Sotheby's. Donc elle dit à son acheteur, go ahead, go ahead. Et l'estimation était à 20 ou 30 000 dollars. À 100 000, son acheteur lui dit, est-ce vraiment bien raisonnable? Elle lui dit, go ahead, go ahead. Et
ça
à 200 000, on y va. Et à 200 000, on lui adjuge, la broche est adjugée pour Elizabeth Taylor, et elle s'est écriée Holy Cow.
Dites-moi, il y a un truc qui est... C'est quoi sa collection de bijoux aujourd'hui? Qu'est-il advenu de cette collection qui doit être faramineuse?
Faramineuse. Alors en fait, la collection, c'est intéressant parce que François Curiel, qui maintenant est président de Christie's Europe, en 98 a été appelé, il était à New York, par les avocats de Liz Taylor pour aller inventorier. Jamais elle n'avait été inventoriée, cette collection. Et à partir de la liste qu'ils ont établie en 98, chaque année, cette liste a été actualisée. Et ils sont arrivés dans la maison de Los Angeles avec tous ces plateaux dans la salle à manger, avec tous ses bijoux et les velours, et ils ont commencé à inventorier. Et ils ont eu la merveilleuse surprise, une heure après avoir commencé l'inventaire, de la voir arriver. Elle s'est assise avec eux, elle a passé la journée avec eux, parce que c'était une très, très, très grande connaisseuse de pierres. Elle disait à François Curiel, voyez là ce saphir, on penserait que c'est un cachemire. Eh ben non, c'est un Ceylan. Et elle connaissait tout, puis elle avait de l'humour. Elle dit, voyez ça, il est gentil, c'est Michael Jackson qui a voulu m'offrir un petit cadeau, mais il n'y connaît rien, le pauvre garçon, il s'est fait avoir. Et c'était un truc de très mauvaise qualité. Et tous ses bijoux, à sa mort, ont été vendus à New York en décembre 2011.
Pour des œuvres caritatives, principalement.
Une partie a été donnée à des œuvres caritatives.
Ah, pas d'enfants,
pas tout. Et quand même, 140 millions de dollars, on n'a jamais battu ce record, jamais depuis 140 millions de dollars en deux sessions, une le soir, 300 personnes. C'est un maximum de records.
Elle possédait vente. Tout ça ou oui. Il y en avait certains qu'elle se faisait prêter, je vais
non,
dire,
non,
pour
non,
les, pas pour
du
les
tout.
Films.
Il y avait pas des du tout, pas produits. Du tout, pas du tout. Contrairement à maintenant.
Il y a des histoires terribles, par exemple, le Burton Taylor qui a été coupé en deux.
Oh.
Ben, c'est triste, cette histoire.
C'est triste.
C'est comme si les deux cœurs, comme ça, brisés, elle vend le Taylor Burton et il est coupé en deux.
C'est triste.
Qui a coupé en deux?
Je ne le sais pas.
Ouais, c'est triste.
Parmi les plus belles pièces, il y a la Peregrina dont parlait Stéphane tout à l'heure, une perle qui a une histoire qui est à peine croyable.
Ah oui, alors c'est une pierre, comme le disait Stéphane, qui est absolument merveilleuse. C'est pas forcément la plus grosse perle, mais elle a une forme poire tellement parfaite. Elle fait quand même ça à 50 carats, c'est un beau bébé. Et... Elle a été peinte par Velázquez, on la voit sur les tableaux de Velázquez notamment. Et quand Richard Burton l'offre à... Il l'a acheté une bouchée de pain, il l'a acheté 37 000 dollars, et à la fameuse vente dont nous parlions, elle a été revendue 11 millions de dollars. Et il l'offre à Elizabeth Taylor, elle est dans sa suite au César Palace, elle est toute contente, toute excitée, elle joue avec, et poum, elle la perd. Alors prend le bas de combat... Et en fait, elle la retrouve, heureusement, juste avant qu'il l'ait avalée, dans la gueule de son Pékinois qu'il l'avait prise pour une balle.
Ah oui, elle était tellement grosse qu'il n'avait pas rapporté la balle.
Oui, parce que j'imagine, s'il l'avait avalée, il aurait fallu attendre
un moment. Et peut-être que le Pékinois serait décédé dans l'opération naturelle.
En tout cas, merci Gabriel de Montmarin, parce que c'est fascinant la passion d'Elizabeth Taylor pour les diamants.
Je sens que Stéphane, en sortant d'Europe 1, va filer chez Bulgare. Attention, avec le couvre-feu, c'est fermé.
Non, vous inquiétez pas. Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces femmes que les diamants ont rendues célèbres. Après Marie de Médicis et Elisabeth Taylor, Mathieu, vous nous brossez le portrait, à 99% vrai, d'une star plus proche de nous qui, elle, a chanté les diamants. C'est Rihanna.
Effectivement, Stéphane, et c'est une chance qu'elle l'ait fait en anglais, car une fois passée à la moulinette de Google Translate, les paroles de sa chanson la plus célèbre évoquent plus un poème de ma sœur Sabrina Noël, actuellement en première STT option tourisme, qu'un quatrain de Mallarmé. Je cite « Trouvons la lumière dans cette mer magnifique, j'ai choisi d'être heureuse. Toi et moi, nous sommes comme des diamants dans le ciel. Tu es l'étoile filante que j'aperçois, une vision de l'extase. Lorsque tu me tiens, je suis vivante. Nous sommes comme des diamants dans le ciel. » Chanté par Pomme et Vianney à la guitare sèche, pas sûr que le truc aurait marché, mais porté par le charisme de Rihanna, il s'agit là d'un des plus grands tubes de l'histoire de la musique. Ah, la dernière fois qu'on a dansé là-dessus à la maison, tu te souviens, David ? Stéphane était comme un dingue.
Il était en slip, il faisait des trucs en slip.
Oui, mais on a dit oui, notamment l'hélicoptère luxembourgeois, mais comme disait Gérard Louvain, tout ce qui se passe à la maison reste à la maison. Bref, Rihanna sort en 2012 le tube ultime qui brille depuis comme un diamant au firmament d'une discographie comprenant 8 albums solo qui se sont vendus en tout à plus de 280 millions d'exemplaires. En 2016, elle passe même devant les Beatles en termes de temps passé en tête des charts aux États-Unis, 60 semaines d'affilée. Comment Rihanna est-elle devenue non pas seulement une star planétaire, mais un phénomène culturel. La question se pose, en tout cas pour Stéphane, qui a du mal à comprendre que Rihanna ait pu avoir plus de succès que Julie Pietri.
Si vous enlevez le cul, il reste quoi ?
Eh bien le talent, déjà Stéphane, d'un, mais aussi une force de caractère qui soulève des montagnes. Car l'histoire de Rihanna commence très loin d'Hollywood et des studios d'enregistrement californiens, sur l'île caribéenne de la Barbade. Oui, c'est comme ça que j'imagine la Barbade. Robin Rihanna Fenty, c'est son nom, voit le jour le 20 février 88. Elle est l'aînée de 3 enfants. Sa mère, Monica Brithwaite, est comptable et son père, Ronald, est un ancien gardien d'entrepôt devenu propriétaire d'une boutique qui passe son temps à s'écharper avec sa femme. Milieu modeste donc, Rihanna grandit dans un bungalow à la limite de l'insalubrité et vend des vêtements sur le marché. Ajoutez à cela que son père Ronald a un petit penchant pour la bouteille, un moyen penchant pour le cannabis et un gros penchant pour la cocaïne. Et vous pouvez résumer l'enfance de Rihanna à un titre de reportage pour Zone Interdite. Alcool, crack et violence conjugale sous le soleil des Caraïbes. Comme si ça ne suffisait pas, Rihanna souffre dans sa jeunesse de céphalée chronique, terrible migraine qu'elle fait tout pour dissimuler à ses camarades afin de ne pas être vue comme anormale. Alors les céphalées chroniques font partie de ces maladies terriblement handicapantes au quotidien, comme les acouphènes ou le syndrome Gilles de la Tourette dont souffre David.
Couille !
Oui, couille aussi David, couille. Pour oublier ses maux de tête, mais aussi les engueulades de papa et maman, qui d'ailleurs ne tarderont pas à divorcer, Riri se met au chant. Riri, c'est comme ça que je l'appelle depuis que j'ai enquêté sur elle, on est assez proches maintenant. À l'âge de 15 ans, avec 2 copines de classe, elle monte un girls band et se retrouve à auditionner devant Evan Rogers, célèbre producteur de musique en visite sur l'île avec sa femme. Il est immédiatement impressionné par la beauté et le talent de la jeune Rihanna, un peu moins par les 2 autres meufs. Désolé les filles, l'aventure s'arrête là pour vous, vous n'allez pas à Baltar. Il le confirme lui-même, à la minute où Rihanna est entrée dans la pièce, les 2 autres filles n'existaient plus. Exactement ce que vous ressentez Stéphane quand Pouls et Castello sont là et que soudain j'arrive.
Cela me donne le frisson.
Ni une, ni deux, Rihanna quitte la Barbade pour emménager chez Evan Rogers et sa femme dans le Connecticut et enregistrer des démos qui pourraient être envoyées aux maisons de disques. Et en janvier 2005, elle décroche une audition pour le label Def Jam Records et son tout nouveau président à l'époque, un certain Jay-Z. Le mari de Beyoncé flash immédiatement sur Rihanna, ce qui d'ailleurs plaira moyen à Beyoncé. 8 mois plus tard, sort Pont de Replay, un morceau formaté pour les clubs, influencé par le reggae. Le reggae, votre style musical préféré, Stéphane, ouais, je le sens. Bien, hein, vos voisins, à t'y regarder, souvent se plaignent. Hein, sont moins fort, Bob Marley, moins fort. Ce single atteint la 2e place des charts et positionne Riri en star montante de la pop. Son premier album, Music of the Sun, atteint la 10e place du Billboard américain, ce qui est bien, mais pas top. Le 2e, en revanche, est un carton, notamment grâce à Unfaithful. Infidèle, hein, Stéphane, vous l'aurez compris en français. Et bien sûr, SOS, son premier single à se classer number one. Vous avez groové là-dessus, Stéphane, je le sens. Le beat est bon. De jolie princesse pop, elle se mue en superstar sex symbole avec la sortie de son 3e album, Good Girl Gone Bad, qu'on découvre avec le tubesque Umbrella. Et là, joli chapeau, cartonné avec une chanson qui s'appelle Parapluie, c'est très fort. Jay-Z dira au sujet de ce titre, si vous écoutez les paroles, vous ressentirez toute sa maturité et tout le chemin qu'elle a parcouru. Ouais, j'ai fait l'exercice pour sentir la maturité. Ça donne « Quand le soleil brille, nous brillons ensemble. J'ai dit que je serai là pour toujours. Maintenant qu'il pleut plus que jamais, je sais que nous sommes là l'un pour l'autre. Tu peux rester sous mon parapluie. Tu peux rester sous mon parapluie. » Effectivement, la maturité est bluffante. Il en faut pour penser à prendre un parapluie alors que le soleil brille à la Barbade. Suivront moult tubes comme celui-là, des Grammy Awards en pagaille, des tournées mondiales à guichets fermés et une générosité sans pareil. Puisque, souvenez-vous Stéphane, que fait un footballeur quand il a 700 000 euros ? Il achète 10 Rolex, vous vous souvenez hein, de ça. Et quand il a 5 millions, il achète une Richard Mille. Et Rihanna, elle, avec 700 000 dollars, elle achète des respirateurs pour sauver les hôpitaux de la Barbade. Et avec 5 millions, elle finance plusieurs organisations luttant contre la Covid-19. Alors évidemment, le statut de star planétaire sexe symbole a, vous le savez Stéphane, des inconvénients. Il faut composer en permanence avec la presse people qui traque vos faits et gestes. La vie privée de Rihanna alimente tous les fantasmes. Certains écrivent et disent n'importe quoi à son sujet.
Elle fume de l'herbe, récupère les pourboires entre ses cuisses et sort avec son pianiste.
Non, alors ça c'est n'importe quoi. En revanche, en 2009, son petit ami d'alors, le rappeur Chris Brown pète les plombs et l'agresse violemment juste avant une remise de prix. La photo de Rihanna, le visage tuméfié, prise par la police, fuite dans la presse. L'incident déclenche une énorme vague d'indignation et de soutien pour la chanteuse, qui devient alors une voix importante contre les violences domestiques. Car au fil du temps, Rihanna ne se contente plus d'être seulement une artiste, elle brille également par ses engagements. Ainsi, la fondation Clara Lionel, qu'elle a créée en 2012 en hommage à ses grands-parents, qui s'appelait Clara et Lionel, bravo, finance le programme d'éducation et de santé dans des communautés pauvres à travers le monde. Chaque année sans pandémie, Rihanna organise le Diamond Bowl avec une guest list pleine de stars et d'invités VIP qui viennent soutenir sa fondation. L'idée est que les gens très fortunés se tirent la bourre pour savoir qui sera le plus généreux.
Moi, j'apporterai des petits biscuits alors.
Par exemple, en 2008, Stéphane n'avait pas gagné. Réellement concerné par les affaires du monde, on sent que Rihanna prend un vrai plaisir à utiliser sa notoriété comme un levier pour faire avancer les causes qui lui tiennent à cœur. Ainsi, en 2018, grâce à une simple série de tweets adressés aux dirigeants britanniques, français, australiens et norvégiens en vue de la conférence internationale sur l'éducation au Sénégal, elle a contribué à collecter plus de 2 milliards de dollars pour l'éducation des enfants. Et ça, je sais que ça vous émeut, David.
Couille !
Oui, couille. Rihanna, c'est donc une chanteuse engagée, mais aussi une businesswoman avisée. Une majeure partie de sa vaste fortune serait en effet liée à sa participation dans Fenty, marque qu'elle co-détient avec le groupe LVMH. Prêt-à-porter, accessoires, lingerie et maquillage, elle a créé un empire avec en un temps record. Et c'est surtout le maquillage avec Fenty Beauty qui connaît un succès stratosphérique. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. Joli, et c'est tout un symbole car c'est la première fois qu'une femme noire dirige une maison de luxe au sein du groupe LVMH. Aux dernières nouvelles, Riri et Bernard Arnault ont décidé d'arrêter le prêt-à-porter Fenty, merci la crise sanitaire, et de se concentrer sur le maquillage et la lingerie. Ils ont raison, on sort plus, donc pas besoin de s'habiller, juste traîner en culotte et se tartiner de fond de teint pour pas avoir l'air trop sale pendant une réunion Zoom, ça suffit. Bref, malgré ce léger revers dans le prêt-à-porter, vous l'aurez compris, le diamant Rihanna n'est pas prêt de cesser de nous éblouir. Le pire dans tout ça, Stéphane, le pire,
oui,
c'est son âge. C'est ça qui fait le plus mal. Rihanna a seulement 32 ans.
Ah non.
Une notoriété planétaire, des engagements associatifs sincères, une marque à elle, et sur son compte en banque, quelques 600 millions d'euros. Alors forcément, on a envie de conclure en disant...
Salope !
Non, bravo ! Ne soyons pas jaloux, Stéphane. Un jour aussi, vous serez une star planétaire et vous intéresserez non plus seulement Télé 7 Jours, mais aussi le Times. Je suis sûr, car vous êtes mon diamant à moi, Stéphane. Et David, vous êtes plus que mon diamant, ma...
Couille !
Non, j'allais dire ma perle précieuse, plutôt. Mais bon, d'accord, si vous voulez.
Merci, Mathieu Noël. Bon, alors là, à mon avis, tout ce qui concerne Rihanna est vrai.
Tout ce qui concerne Rihanna est vrai.
Et tout ce qui concerne l'équipe
est faux. Effectivement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos croqueuses de diamants, Mathieu.
Oui, pour accueillir nos croqueurs de tartiflettes et de pastilles de nata, j'ai nommé Pouls et Castello Lopez, qui nous emmènent au cœur de l'histoire quotidienne, finalement. Mmh. Tout ce qui fait notre quotidien.
Et oui, d'abord, le magret de canard.
Ah,
c'est ça, on va parler du magret de canard.
C'est notre quotidien.
Bah, vous aimez ça, quand même.
On adore ça.
C'est délicieux,
moi,
bon magret.
Moi, je l'aime bien assez cuit, mais je sais que les gens l'aiment rosé.
Ah, il faut. Elle a la goutte de sang, comme on dit.
Ah non.
Je vous ai prévu une petite recette de tartare.
Alors, ensuite, une expression, le mot de la fin, avoir une marotte.
C'est
quand on a une passion, un hobby, comme vous, Mathieu, qui a longtemps collectionné les voitures et les femmes, non ?
Les voitures et les femmes, je ne sais pas dans quel ordre d'ailleurs, mais vous le dites si bien.
Oui. Mais tout de suite, évidemment, on retrouve David Castello-Lopez.
Qui a un accessoire pour vous, les lunettes de soleil Aviator.
Oui, alors avant que vous fassiez la vanne, je vais la faire moi-même. Je sais que je ne suis pas le roi du style vestimentaire, voilà. On avait remarqué.
Non,
mais c'est vrai, je m'habille toujours.
Nous, on ne permet pas, jamais. On n'attaque jamais le physique.
Je m'habille toujours pareil. Sans trop de mauvais goût, vous voyez, mais sans trop de fantaisie non plus. Et je veux dire que des fois, quand je vous regarde, Mathieu, je me dis que je pourrais faire un effort, quand même. Parce que tellement vous êtes un défilé de mode, à vous tout seul.
Et à mesure que l'année passe, je réévalue sans cesse la taille de votre dressing room. Et je me demande à force si vous louez pas un petit hangar en grande couronne pour mettre tout ça dedans.
Je ne peux pas révéler tous mes secrets.
En tout cas, bon, bah, moi, non. Mais il y a quand même des petites choses que je sais, niveau style. Et en particulier, je sais que mystérieusement, il existe des choses qui se démodent moins que les autres. Et en particulier, les lunettes aviator. J'en ai une paire, moi, depuis presque 15 ans, que j'ai amenée ici. Mais de l'avis de tout le monde, mes aviator aujourd'hui, elles sont ringardes. Non pas que la forme soit ringarde, mais les verres, les montures. Apparemment, quand je les porte, je ressemble à un tenancier de boîte de nuit dans une ville secondaire de la Côte d'Azur.
Voilà. C'est alors, quoi une ville secondaire de la Côte d'Azur?
Bah, c'est pas Saint-Tropez ni
Cannes. C'est Jean-Lépin, quoi.
Oui,
c'est
voilà.
Saint-Raphaël par rapport à Saint-Tropez.
Exactement. Vous connaissez mieux la Côte d'Azur que moi.
Voilà,
je vais les essayer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc, tenancier de boîte de nuit de la Côte d'Azur. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ça fait
c'est
ça.
C'est le genre. Allez, j'ai Jean Roch face à moi. J'ai Jean Roch.
Oui, voilà. Mais
il y a un côté parce que Thomas Dutronc les porte.
Ah oui, c'est vrai, Thomas Dutronc.
C'est mieux.
Et c'est mieux. Et je trouve il a le style, oui.
Oui, alors je vais les garder quand même pour la suite de ma chronique. Je garde quand même, moi, une certaine tendresse pour les aviateurs. Et donc, du coup, comme d'habitude, bien sûr, ça m'a donné envie de savoir d'où elles venaient. Alors déjà, les lunettes de soleil. C'est sensiblement plus récent qu'on croit. Tout simplement parce que, à part pour une petite frange de la population qui en a besoin pour des raisons médicales ou professionnelles, en fait, on n'a pas vraiment besoin de lunettes de soleil. Hein, c'est juste un petit confort supplémentaire. Donc, les premiers trucs qui ressemblent un peu à des lunettes de soleil, c'est des lunettes de neige, des Inuits, qui les utilisaient déjà visiblement dans les temps préhistoriques. Mais c'était des lunettes sans vitres. Vous voyez, c'était juste des cercles en bois avec une fente au milieu qui réduisait pas l'intensité du soleil qui vous arrivait dans la face, mais juste la quantité de soleil. C'est comme si on regardait à travers une petite fenêtre toute fine.
Et vous, ils voyaient plus rien.
Ils voyaient moins. Du coup, mais ils étaient moins éblouis. Et en gros, avant le début du XXe siècle, il n'y a pas grand chose d'autre. Sauf que le début du XXe siècle, c'est aussi le début de l'aviation.
Ah oui.
Et les aviateurs, ils portaient des lunettes pour se protéger de plein de choses. Du vent, de la pluie, du froid aussi. Du froid notamment, même parce que quand vous êtes à 10 000 mètres d'altitude sans lunettes, vos yeux, ça devient des glaçons.
Voilà. Et il y avait le pare-brise?
Non, si vous n'avez pas de lunettes.
Mais personne ne va à 10 000 mètres d'altitude si on n'est pas pressurisé. Hein, c'est pas possible.
Bien sûr que si. Les aviateurs dans les années 20, ils allaient à 10 000 mètres d'altitude.
Ils allaient à 10 000 mètres?
Eh ben oui, alors, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Voyez, Olivier Pouls. Vos yeux à 10 000 mètres d'altitude, ça devient des glaçons. Ce qui est sympa pour tout ce qui est gin tonic, mais quand on veut, par exemple, voir devant soi, c'est vraiment nul d'avoir les yeux gelés. Voilà. Et au bout d'un moment, les aviateurs, ils ont remarqué qu'à très haute altitude, le soleil aussi leur faisait quand même super mal aux yeux. Et il y avait un aviateur en particulier qui s'appelait John McCready. Et John, dans les années 20, il est allé voir un fabricant de lunettes très connu aux États-Unis qui s'appelait Bausch & Lomb. Et il leur a dit, voilà, j'aimerais bien avoir des lunettes qui couvrent bien, qui soient un peu tombantes pour bien protéger les yeux partout et qui me protègent aussi du soleil. Bausch & Lomb, ils ont fabriqué les lunettes qu'ils demandaient. Et quelques années plus tard, ils ont créé une marque spéciale pour les vendre au grand public. Et cette marque, c'était Ray-Ban. Les premières Ray-Ban Aviator, elles ont été commercialisées en 1936. Et depuis, comme je le disais, elles n'ont jamais vraiment cessé d'avoir du succès. Bon, déjà, la Deuxième Guerre mondiale leur a donné un bon coup de boost, notamment parce qu'elles ont été portées par le général MacArthur, qui était un des principaux généraux américains. Et ensuite, on en a déjà parlé un petit peu, une ribambelle de stars, Michael Jackson, Tom Cruise, Brad Pitt, etc. Et à partir des années 70, les femmes aussi ont commencé à en porter. C'est devenu un accessoire féminin. Et j'aime bien penser que moi aussi, à ma manière, au tournant des années 2010, j'ai contribué à faire survivre le cool de l'aviator, ou au moins le cool un peu alternatif des boîtes de nuit secondaires de la Côte d'Azur.
Mais c'est très réussi. Hein. Ça vous va très bien.
Est-ce que vous voulez les essayer? J'aimerais bien les voir sur vous.
On va le voir sur Stéphane.
Sur Stéphane.
Sur Stéphane, évidemment. Parce que Stéphane, penchez-vous et voyons voir ce que ça donne, les lunettes aviator.
Mais c'est
pas mal.
Mais c'est très bien. C'est mieux que sur moi, je pense.
Là, ça fait 30 scénettes de boîte de nuit.
Putain, merci beaucoup.
Une grande séquence d'action encore dans notre émission. Là, très très gros budget.
C'est l'imitation de l'avion de chasse.
L'imitation très, très avec bonne. Le bruitage.
Exactement.
Il n'y aura pas de post-synchro. Le bruitage est fait en temps réel dans le film. C'est
Et on a fait la musique bague. De Top Gun.
C'était une très belle chronique, David. Je suis enchanté. Et vous savez quoi? Dès demain, je ressors mes aviateurs qui pourrissent au fond du placard.
Bah, on retrouve en tout cas les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
L'heure du dîner approche, l'heure du magret. D'où vient le magret de canard? Certainement, du canard, me direz-vous. Mais finement observé. Mais pourquoi mange-t-on du magret de canard? Depuis quand et comment? Olivier Pouls arrive.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
C'est un moment compliqué de l'émission qui s'annonce puisque Olivier Pouls, notre expert gastronomique, va tenter d'expliquer à Stéphane qu'on ne mange pas un magret de canard bien cuit, mais rosé. Et c'est un débat qui va s'engager. Et Olivier, je vous laisse expliquer à Stéphane pourquoi c'est meilleur.
Parce que sinon, c'est pas bon.
Voilà.
C'est trop cuit.
Fin de l'explication. Oui, mais moi, j'aime la viande trop cuite.
Vous savez comment, comment disent les chefs, hein. C'est saignant ou mal cuit.
Oh, vous l'avez vexé.
Donc, non, bah après, c'est.
Je peux vous dire qu'un chef, quand il a Stéphane Bern à sa table, il dit pas ça. Hein.
Non, non,
il
non,
dit,
non,
oui, monsieur Bern, vous le voulez bien cuit,
bien carbonisé, une semelle, pas de problème. Bon, on va revenir sur la cuisson du
viande,
magret.
Quand la viande est tendre, je vous assure, même très cuit, c'est tendre.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas bon. Enfin, bon, bref.
On
n'y arrivera pas. Bon, alors, le magret de canard. Bon, bien évidemment, c'est une partie du canard et personne n'a inventé le magret de canard.
C'est en fait le blanc du canard, si jamais.
C'est le filet du canard. Mais la dénomination magret vient avec le canard gras. C'est-à-dire qu'on appelle un filet de canard cette partie quand le canard n'a pas été engraissé, et on l'appelle un magret lorsqu'il est issu d'un canard qui était engraissé, qui était gavé pour le foie gras. Donc le magret, c'est forcément un canard gras.
Ah, c'est forcément un canard gavé.
Et c'est forcément un canard gavé. Sinon, ça s'appelle un filet de canard.
Oui, oui, Stéphane.
Et c'est pas exact. Enfin, c'est la même partie, mais forcément le canard gavé a un magret qui est lui aussi plus gras.
Un canard malade, donc.
Au foie atrophié, appelez
donc
ça comme
malade,
vous voulez.
Il faut regarder la réalité en face. Ouais. Hein,
alors, si on commence à ouvrir ce débat-là aussi, Et donc, le gavage dans le sud-ouest, il démarre vraiment dans la deuxième moitié du 18e siècle. Alors, on peut revenir là aussi sur toute l'histoire du gavage qui a commencé avec les Égyptiens durant l'Antiquité, mais à l'époque, on gave les canards pour le foie, on prélève le foie et on valorise pas le reste du canard. En fait, on en fait du confit. Et on fait du confit avec les cuisses et avec le magret. Et c'est un chef, en 1959, qui s'appelle André Daguin, qui va le premier avoir l'idée de valoriser ce morceau du canard et d'en faire un plat gastronomique, d'arrêter de le passer dans les conserves de canard confit. Et ce chef, il est installé à Auch, son restaurant s'appelle l'Hôtel de France, il aura 2 étoiles au Michelin, c'est une grande figure de la gastronomie française. Et donc, dès 1959, il décide de mettre à sa carte un magret de canard cuit comme une pièce de bœuf, donc pas trop cuite. Bon, pour vous, on ferait une petite exception. Et servi à l'époque avec une sauce poivre. Bon, c'est une recette très classique. Mais c'est la première fois, en réalité, que cette pièce est valorisée. Alors après, bien évidemment, tous les autres chefs vont se dire, tiens, mais c'est quand même pas mal. Il y a une texture intéressante. Ça a un vrai goût. Et donc, le magret de canard va devenir, ensuite, dans les années 70 et 80, une vraie pièce noble, très à la mode. Une mode qui, comme toutes les modes, va forcément un moment s'arrêter. Alors peut-être parce que les chefs se seront lassés de ce morceau de canard, mais aussi beaucoup parce que malheureusement, dans les années 80-90, on voit arriver beaucoup de magrets de mauvaise qualité, avec des canards non pas gavés dans le sud-ouest, mais dans d'autres pays de l'Est et des choses sans grand intérêt. Alors, je vais revenir sur la manière de le cuire, ce fameux magret de canard. Parce que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une viande maigre, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Oui.
Le gras, il n'est pas dans la chair,
il est sur le côté
extérieur.
Il faut pas le manger, hein. Enfin, ou alors, si on est vraiment.
Il faut en manger un petit peu, mais pas trop.
Ah, voilà. Il faut en goûter un petit peu.
Ça donne le goût. Alors, ce qu'on va faire quand on va récupérer ce magret de canard, c'est qu'on va le strier. Alors, très, très, très finement. Donc, avec un couteau, on va marquer tous les 2 mm une petite ligne, et ensuite on va croiser, et ça va permettre à la chaleur de rentrer dans la chair. On démarre toujours côté peau, toujours dans une poêle bien chaude. On va laisser, surtout on ne touche pas, on va laisser la viande commencer à cuire, donc le gras va fondre, la chaleur va monter. On va cuire pendant 5-6 minutes, alors un peu plus pour Stéphane, et on va le retourner, mais vraiment 30 secondes, juste le temps
de le saisir.
Et là, évidemment, une bonne partie du gras a fondu. Et ce gras, évidemment, on le récupère, on le filtre, on le récupère, on le laisse refroidir. On peut s'en servir pour faire sauter des pommes de terre, par exemple. Mais moi, j'ai une autre idée à vous donner, c'est que le magret de canard, c'est une viande qui est délicieuse à manger crue aussi.
Alors là,
désolé Stéphane.
Non, mais pour le moment.
Alors, en carpaccio ou en tartare, un tartare de magret de canard, c'est vraiment très bon. Avec, on peut lui donner un petit côté un peu asiatique avec, je vous mettrai la
coriandre.
Voilà, exactement. Je vous mettrai la recette sur Europe 1 sur le site. Avec du gingembre, de la coriandre, un peu de sauce soja, un peu de graines de sésame, un peu de vinaigre de riz et un petit trait de citron vert. Et vous avez là un tartare de magret de canard absolument surprenant et délicieux. Et surtout, pas gras du tout, contrairement à ce qu'on peut penser.
Pas gras du tout, et c'est ce qu'on recherche en cette période. Voilà. Hein, et, le détox
avant tout. Et merci André Daguin d'avoir mis... Alors André Daguin qui malheureusement est décédé il n'y a pas très longtemps. En 2019, je crois.
Olivier, on retrouve toutes vos recettes évidemment sur le site europe1.fr, dans toutes les bonnes applications. Et autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte, de 11h à 12h30 sur Europe 1. Dès demain, Stéphane, vous êtes prêt pour le mot de la fin ?
Oui, avoir une marotte.
Avoir une marotte, j'en ai de nombreuses et je suis sûr que vous essayez de
le
piéger.
Au moins, vous savez ce que ça veut dire.
Oui, je sais ce que ça veut dire, mais alors d'où ça vient, ça j'en ai aucune idée. Heureusement, vous êtes là.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'histoire sans se la raconter et l'histoire des expressions aussi de notre belle langue française avec vous Stéphane, c'est le mot de la fin aujourd'hui.
Oui, avoir une marotte. Mathieu, vous savez, ceux qui écoutent régulièrement Historiquement Vôtre, et ils sont nombreux, connaissent vos passions, des plaisirs simples, les top modèles slovaques, le caviar, les gros cylindrés. Ce sont vos passions, ce sont vos marottes. Mais d'où vient cette expression, avoir une marotte?
Écoutez Stéphane, concernant mes présupposés marottes, vous devez confondre avec un autre, Mathieu Noël. Mais passons, avoir une marotte, c'est avoir une passion, mais une passion assez forte, voire démesurée et excessive.
La marotte est à l'origine le bâton que les bouffons utilisaient pour divertir les rois et les puissants. Habillés de vêtements à losanges aux couleurs criardes, ils avaient cette marotte avec, à leur bout, une mini-figurine qui souvent les représentait. Un stratagème pour faire dire à cette petite poupée les pires horreurs, souvent drôles, une audace qui était excusée par la folie de cette marionnette. Tiens, tiens, marionnette comme marotte. C'est un dérivé de Marie, la Sainte Vierge. Ça a donné également mariole. On y retrouve la folie, mais également Mariotte. On salue Laurent, notre gourmand collègue que l'on retrouve sur Europe 1 tous les samedis à 11h. Cette Mariotte, c'est une image de la Vierge au XVIe siècle. Certains idolâtraient les figurines de Marie jusqu'à la folie. Là encore, on retrouve à la fois la figurine et la folie. Vous avez compris d'où ça vient, donc Mariotte.
Oui, j'ai compris,
voilà, ce sont des figurines de folie. En roumain, aujourd'hui, on dit Marotta. Dans les pays anglophones, pour dire que quelqu'un a une passion obsédante, on dit « a bee in your bonnet », avoir une abeille dans le bonnet. Et je voulais avoir une pensée aujourd'hui pour Graham Baker, un Australien qui a une marotte étonnante. Depuis 1984, il collectionne dans des bocaux toutes les bouloches de pull qu'il retrouve dans son nombril. Mais au fond, oui, mais Mathieu, qui sommes-nous pour juger ?
Oui. Je n'ai rien dit. D'ailleurs, je suis sûr
des
que
gens
David
qui ne font pas ça.
Je suis sûr que David fait ça. Non,
je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas.
Ça vous a jamais
pourquoi
traversé l'esprit?
Mais si, si. Pourquoi moi, la question que je me pose, c'est pourquoi les bouloches de ces pulls vont se nicher dans le nombril?
Ça ne vous arrive pas?
Je porte jamais des pulls à même la peau.
Portez vos pulls à même la peau et vous trouverez des bouloches dans votre nombril, Stéphane. Je vous en informe, je vous le dis.
Ah, je sens que cette marotte vous passionne.
C'était pas une marotte, mais je ne les collectionne pas, mais ça m'arrive de faire cette petite découverte dans mon nombril. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré aujourd'hui à ces femmes qui brillaient par leur talent, mais aussi un peu par tous les diamants qu'elles avaient au cou. Marie Médicis, Elisabeth Taylor, Rihanna, laquelle de ces ambassadrices Tiffany vous a le plus ébloui, Stéphane?
Celle qui avait un diamant dans le nombril. Peut-être Rihanna.
Peut-être. On se retrouve demain, les amis, pour de nouvelles aventures. Peut-être un peu moins bling-bling.
Oui, absolument. À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.